Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. Aujourd'hui, on va parler d'alcool et on va s'intéresser plus particulièrement aux méthodes de l'industrie pour nous faire boire. L'alcool fait bien souvent partie de notre quotidien, mais on a tendance à oublier que c'est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer. Pour les experts, l'alcool est considéré comme une drogue dure. Pourtant, les industriels sont autorisés à le promouvoir de différentes manières. Publicité, lobbying, marketing, vous verrez que tous les coups sont permis. Alors, quelles sont les règles en vigueur? Quels sont les dangers d'une consommation excessive d'alcool? La Belgique a mis en place un plan alcool qui vise à limiter la surconsommation dans la population. Mais atteint-il vraiment ses objectifs? On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais on accueille d'abord Tristan Godard. Vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez réalisé cette enquête sur l'alcool. Est-ce que c'était simple d'enquêter dans l'univers des grands alcooliers?
Alors, l'alcool, c'est un sujet dans lequel il est assez simple de se plonger. Pourquoi? Parce que les données sur la consommation d'alcool sont nombreuses, tout comme ses dangers et les pathologies qui en découlent. Ce qui est assez surprenant, c'est finalement le fossé qui existe entre ces faits scientifiques et ce qui est perçu par une partie de la population. Et ça a été finalement le début de l'enquête. C'était d'essayer de comprendre ce qui était mis en place par l'industrie de l'alcool pour nous faire boire et pour nous faire oublier les dangers liés à la consommation. Et la grande difficulté, cela a été justement de confronter les grands producteurs à nos révélations, à Beinbef ou Pernod Ricard, pour ne citer qu'eux. Visiblement, ils ont une devise pour vivre heureux, vivons cachés, en tout cas des médias. Malgré cette attitude, cela ne nous a pas empêchés de révéler certaines stratégies parfois interpellantes.
Alcool, tous les coups sont permis. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Tristan Godard et Amaury Boucher.
L'enquête débute dans l'un de mes bars favoris. Le genre d'endroit familier où on se sent bien avec les copains. On discute ensemble, un verre à la main, une tournée, puis une deuxième, voire même une troisième. Personne n'est saoul, même si on est peut-être un peu joyeux. Pas question de parler d'alcoolisme ou de dépendance. Pourtant, je me pose la question. Pourquoi la fête avec les copains est-elle systématiquement associée à la consommation d'alcool? Pourquoi, pendant ce genre de moment, est-il si difficile de s'en passer? Est-ce que je bois trop? Et surtout, est-ce que sans le savoir, mes amis et moi sommes la cible, comme d'autres personnes, de certains producteurs d'alcool? J'ai d'abord besoin d'en savoir un peu plus sur ce produit qui fait partie intégrante de ma vie. En Belgique, un nom revient très souvent quand on parle d'alcool. C'est celui du médecin généraliste Thomas Orban. Il a déjà écrit 2 livres sur l'alcool. Et il me le dit d'emblée, c'est une drogue, même si on a tendance à l'oublier ou à vouloir l'oublier.
C'est une drogue et c'est une drogue dure en plus. Parce que pour évaluer la dureté d'une drogue, on va partir, pour faire simple, de 2 choses. Quelle est sa puissance addictive? Est-ce qu'il va vite me rendre addict? Bon, c'est clair que l'alcool, ça rend moins vite addict que l'héroïne ou que la nicotine, mais ça rend addict, ça rend drogué. Et la deuxième chose, c'est quel est l'impact sur l'individu et sur tout son entourage, c'est-à-dire sur toute la société. Et quand on additionne l'impact sur l'individu, toutes les maladies, ou les accidents, les violences, les traumatismes, et sur la société, les problèmes de simplement de boulot, de productivité, les problèmes de couple, les problèmes sociaux et ainsi de suite, eh bien, c'est la drogue dure, la plus dure, c'est la drogue numéro 1, c'est l'alcool.
L'alcool, c'est notre drogue culturelle, une sorte de lubrifiant social qui fait partie de la vie de millions de Belges. Pour s'en rendre compte, je me rends à Louvain-la-Neuve par une belle après-midi de printemps. Près du lac, des petits groupes d'adolescents qui discutent, s'amusent ou tapent la balle. Tous ou presque consomment de l'alcool, comme du rhum ou du whisky, mais surtout de la bière bon marché. À côté de moi ce jour-là, Martin Deduve. Il est alcoolologue et expert en santé publique. Les jeunes et l'alcool, il connaît.
C'est vrai qu'on a de l'alcool, parfois de relativement mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité, à des prix extrêmement bas. Et ça, on sait que ces produits-là sont particulièrement consommés pour leur effet psychotrope. C'est-à-dire qu'on va les chercher pour, en gros, se mettre la tête à l'envers.
Une adolescente, canette de 50 centilitres de bière à la main, retient notre attention. On s'approche d'elle et on lui demande de nous en dire un peu plus sur ce qu'elle boit.
Ça goûte quoi ?
C'est un peu la cerise comme ça. Okay. Et ça passe mieux que la bière normale, c'est moins amer, donc c'est pas mal.
Ok. Voilà.
Donc le fruit, c'est plus agréable.
C'est plus agréable à boire, ouais.
Combien de pourcents d'alcool là-dedans?
8, quand même.
Ok.
Parce que quand même plus fort qu'une bière normale. Donc,
ouais.
Donc, voilà.
Et t'en boiras combien sur la soirée?
3, environ 3-4.
Ok.
Pour être raisonnable.
Raisonnable? Peut-être pas. Martin de Duve me fait un rapide calcul. Consommer 4 canettes de 50 centilitres de bière forte équivaudrait à un taux d'alcool de 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Si elle boit réellement ses canettes le temps d'une soirée, 4 heures par exemple, la jeune fille a de fortes probabilités de tomber dans un coma éthylique. S'en rend-elle compte? Probablement pas. Les jeunes de 15 à 24 ans font partie de ceux qui consomment le plus d'alcool. Dans notre pays, on estime que son usage présente un danger pour 14% de la population. Il s'agit de Belges qui dépassent ordinairement les 10 unités d'alcool recommandées chaque semaine. C'est ce qu'on appelle les repères de consommation. Une unité, c'est 25 centilitres de bière Pils, 10 centilitres de vin ou 3 centilitres et demi de spiritueux. Retour chez Thomas Orban, le généraliste. Il me l'assure, chez les jeunes, la consommation régulière d'alcool n'a rien d'anodin.
L'alcool dans un cerveau qui n'est pas mature, il faut 25 ans pour avoir un cerveau mature, eh bien, vient influencer des mécanismes qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Par exemple, ce qu'on appelle le cerveau exécutif, celui qui va contrôler nos décisions, n'est pas prêt avant 25 ans. Et l'alcool va diminuer l'efficacité de ce contrôle. Donc on va donner à des jeunes, on va mettre dans le cerveau des jeunes, un produit qui en fait va augmenter la probabilité qu'ils en réutilisent encore et davantage. Donc on va commencer à fabriquer des personnes qui vont avoir l'habitude de boire, voire qui vont devenir dépendantes.
À ce moment de l'enquête, j'ai l'impression d'en savoir un peu plus sur l'alcool, son caractère addictif et ses dangers, notamment sur les plus jeunes. Il est temps pour moi de m'intéresser aux méthodes utilisées par l'industrie de l'alcool pour nous faire boire. Ce que l'on appelle les alcooliers. Mes questions m'emmènent à l'Université libre de Bruxelles. Les cours sont finis, la fête, elle, commence. C'est la frontalière. Un cercle étudiant qui m'accueille dans l'un des bâtiments préfabriqués du campus. L'ambiance est sympa, les étudiants aussi. La bière coule à flot. Sur la pompe, un logo bien connu de tous.
Vous servez quoi comme bière là?
Que de la bière normale.
La Pils.
La Pils.
Et c'est quoi la marque?
C'est Jupiler.
Et c'est que de la Jupiler?
Que de la Jupiler.
Est-ce que ça veut dire que pendant 4 ans, 5 ans, la plupart des étudiants de l'ULB vont boire une seule bière, en fait.
C'est ça.
Jupiler, c'est la pils phare du géant AB InBev, la multinationale belgo-brésilienne numéro 1 de la bière au monde. Chez nous, les brasseurs, comme AB InBev ou Alkenmaas, signent des contrats d'exclusivité avec les cercles étudiants. La méthode est en fait similaire à celle pratiquée dans les bars et les cafés. Mais à l'ULB, c'est un peu différent. Marie Gilotet, la représentante des étudiants, m'explique que l'université bruxelloise a décidé de lancer en 2018 un marché public. L'idée est plutôt intelligente. Trouver un brasseur unique pour la quasi-totalité des cercles, ainsi que pour la salle de fête.
Les cercles qui servent de la jupe sont liés avec Jupiler via un contrat, qu'on appelle nous ici le contrat commun, qui est un contrat qui nous oblige à l'exclusivité sur la pils. Et du coup, on est obligé de servir de la pils au fût.
Et ça vous ennuie ?
Ça reste selon moi un problème parce que d'un côté, on est tellement habitué à consommer cette marque-là qu'on finit par. Certains finissent juste par ne même plus penser qu'il y a d'autres marques de pils qu'on peut voir. Voilà, mais c'est dommage.
Le marché public est conséquent. 5 450 fûts par an. L'équivalent d'un million de verres de bière ingurgités chaque année par les étudiants. Il s'agirait même du plus important débit de boissons du pays. Pas étonnant que les fûts soient vendus à un prix largement inférieur à celui pratiqué habituellement dans le commerce. Et plus le prix du fût est bas, plus les cercles vendeurs de Jupiler remplissent leur trésorerie. En plus de ça, AB InBev leur offre un service client 5 étoiles.
On a le matériel déjà, on a les pompes qui sont quand même offertes. quand on a des événements, on a toute l'installation bar qui nous est offerte aussi. On peut avoir des frigos à disposition, des pompes volantes qui nous permettent d'organiser des événements en extérieur. On a l'entretien des pompes aussi qui est offerte. Et du coup, c'est tout le service qui, si nous, on devait le payer nous-mêmes, nous coûterait vraiment très, très, très cher, quoi.
Est-ce que ça vous fait dire que AB InBev a envie d'être ici présent à l'ULB ?
Oui, clairement. Ça, ils le disent, même quand le représentant InBev vient, qui vient discuter avec nous en réunion et ainsi de suite, il le dit. Nous, on est contents d'être là, on a envie d'être là.
Et être là pendant 4 ans au minimum ou 5 ans dans la vie d'un étudiant de l'ULB ?
Ouais.
L'ULB et AB InBev, c'est donc une histoire d'amour qui dure depuis longtemps, mais qui n'a pas toujours été aussi officielle qu'un marché public. Plusieurs sources m'ont parlé de mystérieux voyages gracieusement offerts par le brasseur. Certaines photos sont encore accessibles sur les réseaux sociaux. Entre 2013 et 2018, AB InBev a emmené en vacances, dans le sud-ouest de la France, les cercles avec lesquels la société était sous contrat. Les photos que je découvre parlent d'elles-mêmes. L'alcool coulait à flot. Simon Van Oren est un ancien élève de l'ULB. Il est parti 3 années de suite grâce à AB InBev. Il m'a donné rendez-vous sur le campus de l'université.
C'était des vacances, on avait des cours de surf. On a fait du paintball, on a fait de l'acrobranche, on a fait du rafting. Donc toutes des activités qui coûtent normalement. Et tout ça, on l'avait entièrement offert. On était dans un camping, on avait les soirées organisées. On voyageait. La première année, on est passé brièvement par l'Espagne, juste pour une soirée, revenir. Donc c'était vraiment chouette d'avoir ça. À tout moment du séjour, on avait accès à de la bière si on voulait. On arrivait, présentation, on nous montrait où est-ce qu'on allait dormir. Et puis directement des jeux sur la plage. Il y avait un volet la première année. Je crois les années suivantes, enfin des petits jeux sur la plage, etc. Plein soleil. La première année, du coup, on a dû demander est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de l'eau parce qu'on n'avait que des articles jupilaires à boire, donc des socs jupilaires qu'ils avaient lancés à un moment, ou de la bière, parfois de la bière, je pense qu'il y avait, ou Garden Rosé, donc qui a une bière plus légère et qui était censée être notre soft. La deuxième année, on a été assez surpris, ou peut-être la troisième, je ne sais plus, mais on est vraiment arrivé, il y avait un taureau jupilaire rempli de glaçons et de bière. Et en fait, c'était le lancement de la taureau qui est à 8%, je crois, ou 7-8%. Et on avait accès à ça à 9h du matin. Quand on est arrivé, on pouvait prendre une taureau si on voulait.
Certains étudiants venus de toutes les universités belges passaient la journée à consommer les bières d'AB InBev, parfois sous une forte chaleur, jusqu'à l'ivresse. Grâce aux photos, j'apprends que ces vacances faisaient partie du très confidentiel Jupiler Ambassador Programme. Une action de fidélisation des jeunes étudiants dont on ne sait rien ou presque. Car AB InBev n'en a jamais fait la promotion publiquement. Si ce programme est antérieur au marché public lancé par l'ULB en 2018, il scandalise Alain Levesque, le vice-recteur aux affaires étudiantes.
Est-ce que vous étiez au courant ?
Très honnêtement, j'étais absolument pas au courant et que si cela devait à nouveau se reproduire, je pense qu'évidemment, ce serait un niet catégorique des autorités de l'université.
Pourquoi ?
Ça ne fait pas partie du contrat, d'accord ? Et je pense que cette façon de procéder n'est absolument pas acceptable. Donc que InBev réponde à un marché selon les règles qui sont fixées dans le marché public, c'est évidemment tout à fait normal. On va respecter les règles, mais dans ce marché public, il n'est pas prévu que ce type d'activité se mène. Ça veut dire que c'est, une activité collatérale avec, je pense, pour seul objectif de se fidéliser des étudiants de façon juste scandaleuse. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de procédé. Donc si cela s'est fait par le passé, je pense que je peux m'engager à ce que ça ne se passe évidemment pas maintenant, ça c'est clair.
AB InBev a refusé de répondre à ces accusations face caméra. L'entreprise se contente de me préciser que le Jupiler Ambassador Programme, c'est de l'histoire ancienne. Et qu'une telle initiative ne passerait pas leur vérification éthique actuelle. Une sorte d'aveu de culpabilité, peut-être. Bien que j'ai parfois du mal à l'admettre, le temps de l'université et des soirées étudiantes, ce n'est plus vraiment de mon âge. Quand arrive la trentaine, l'alcool est forcément consommé ailleurs, au restaurant et dans les bars majoritairement. C'est ce qui m'amène à m'intéresser aux pratiques des alcooliers au sein de l'ORECA. Et surtout, à rencontrer Arnaud Rousseau. Pendant près de 20 ans, il a exercé la fonction de sales chez Pernod Ricard. Un sales, c'est un délégué commercial. Et Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial des spiritueux et du vin. Arnaud a été licencié pour cause de restructuration. Pourtant, pas question pour lui de cracher dans le pastis. Il a adoré son travail, qui consistait à signer des contrats d'exclusivité avec des établissements Horeca.
C'est un travail de suivi. Dans l'établissement, le bon délégué qui repasse régulièrement va répondre encore une fois aux besoins de l'établissement. Certains veulent des verres, d'autres veulent des parasols, d'autres veulent des animations, d'autres veulent des actions. Voilà, donc si le délégué suit bien son client, le barman va être un petit peu l'ambassadeur de nos produits et peut-être suggérer un petit peu plus nos produits que les produits concurrents. Et à ce moment-là, ben, forcément, les ventes en découlent.
Ces pratiques sont en fait similaires à d'autres secteurs d'activité où les délégués commerciaux développent et entretiennent une relation avec leurs clients. En clair, plus ces clients vendent, plus ils sont récompensés. Arnaud m'apprend qu'avec Pernod Ricard, c'est exactement pareil. Plus vous servez de l'alcool, plus vous recevez en échange.
Oui, il peut y avoir des récompenses, on peut se dire, c'est l'anniversaire du patron, on va aller manger un petit bout, et puis ça leur fait toujours plaisir. Puis les partenaires d'événements aussi, sur lesquels on peut les inviter. On était avec le Champagne Moom sur les grands prix, mais donc on avait quelques accès, les plus beaux, meilleurs clients Moom, on pouvait les inviter, par exemple, sur le circuit. On pouvait Festival Tomorrowland, où on était... Le Pernod Ricard était partenaire juste à mon départ. Mais on avait des places pour aller inviter des clients. On pouvait aussi inviter des gens pour aller montrer une distillerie ou l'autre. On avait...
Où ça, par exemple ?
Jameson, quoi, en Irlande. Beefeater à Londres. Havana Club à Cuba.
Vous avez emmené des barman à Cuba.
Oui.
Il y a un client qui le mérite, c'est quoi ça veut dire ? C'est un barman qui vend plus de vos produits ?
C'est une personne qui est un petit peu ambassadeur de la marque.
Je ne suis pas naïf. Je sais que le but d'une entreprise, c'est de vendre. Mais vend-on de l'alcool comme n'importe quel autre produit ? Les délégués commerciaux de Pernod Ricard sont-ils suffisamment encadrés pour promouvoir les alcools de la marque ? Arnaud m'assure que son ancienne entreprise a toujours fait en sorte de protéger ses employés. Mais je sens que quelque chose cloche. Peut-être ne me dit-il pas tout. De fil en aiguille, je parviens à entrer en contact avec d'anciens employés du groupe français. Je sens que le sujet est sensible. Et ça se comprend. Certains me parlent de dépendance à l'alcool au sein de la profession, de beuverie organisée par l'entreprise, de risques pris sur la route après une mission. L'un d'eux accepte de témoigner et de me parler de la face cachée de délégué commercial. Pour préserver son identité, son témoignage a été anonymisé.
On rentre dans une atmosphère un peu festive, bonne ambiance. Les fois où j'étais sur la route et où je rencontrais les personnes de l'Horeca, effectivement, c'était un peu plus alcoolisé à ce moment-là. Mes journées étaient un peu plus alcoolisées.
Pourquoi ?
Les barman étaient très ouverts et directement à mettre un verre. Il était 11h du matin et c'était directement, on va goûter ton gin à 11h du matin. Et puis c'est un verre et puis c'est, on prendrait quand même bien un deuxième verre parce qu'il est 11h30, c'est bientôt l'apéro, un deuxième verre et puis un troisième verre. Et c'est sans fin en fait, même si j'étais ferme et je me disais, il est quand même 11h, j'ai pas envie de prendre de l'alcool fort, hein, même de l'alcool tout court. Pour bien paraître, et puis le client te pousse très facilement à boire, donc j'étais entre guillemets un peu obligé. Si on s'entend bien avec ces personnes-là, ils auront tendance à plus facilement, une fois qu'il y a un client devant eux, qu'il hésite entre telle ou telle marque, l'influencer le client en disant prenez plutôt telle marque, parce que justement... Dans sa tête, il se dit, je m'entends bien avec le représentant, il est super sympa, il vient souvent, on se voit souvent. Et donc, clairement, ça influence.
Ce témoin est formel. Pour entretenir de bonnes relations avec les patrons d'établissement et les barmen, certains sales sont presque obligés de boire. Et qu'importe les risques.
On laissait les sales se boire et rentrer et conduire bourré. C'est surtout ça aussi qui m'a choqué, c'est que on fait enfin, peu importe d'où on vient, en Belgique, les trajets étaient quand même fort longs, et donc à chaque fois, les stylistes devaient reprendre sa voiture bourrée, et travailler bourré, et voilà, oui, effectivement, ça, on vend de l'alcool, mais c'est pour autant qu'on doit le consommer à ce point-là.
Pernod Ricard refusera toute demande d'interview filmée. Comme seule réponse, un mail envoyé depuis le siège parisien de la société du responsable de la communication.
Si nos collaborateurs peuvent être amenés à faire déguster nos produits à leurs clients dans le cadre de leur présentation ou visite d'établissement, nous sommes confiants qu'ils le font en veillant au strict respect de nos principes de consommation responsable.
La consommation responsable. Derrière cette phrase utilisée par Pernod Ricard se cache en réalité une stratégie bien ficelée, utilisée depuis longtemps par l'industrie alcoolière. Un discours que connaît très bien le docteur Bernard Basset. C'est le président de l'association Addiction France. C'est à Paris que je le rencontre.
L'intérêt du concept de modération, c'est qu'il est vague, c'est qu'il est flou, c'est que chacun le perçoit à sa manière. Chacun se sent modéré. Personne ne veut se classer dans la catégorie de buveur à risque, excessif, etc. Donc le concept de modération, il est très intéressant en termes de communication pour les alcooliers. C'est-à-dire que, bon, si on boit avec modération, on risque rien. En gros, c'est ça le message. Bon, évidemment, ce message est faux. Le message implicite, c'est les acteurs de santé publique, c'est des radicaux. C'est des gens qui veulent tout détruire, qui veulent qu'on ne boive pas du tout d'alcool. Donc nous, on est des modérés. On prône la modération, la mesure en toute chose. Mais justement, cette modération, c'est surtout le flou et c'est surtout l'excuse pour ne pas maîtriser sa consommation.
Mettre en avant la consommation responsable ou modérée, c'est l'occasion d'omettre de parler des dommages liés à l'alcool. Un produit toxique, dès les premières gouttes, est lié à 200 pathologies. Cancer, maladie cardiovasculaire, hypertension, troubles du rythme cardiaque, anxiété, problèmes de sommeil. Tout cela, les alcooliers ne nous en parleront jamais.
Oui, il y a une vraie stratégie pour minorer les informations de santé publique sur les risques de la consommation d'alcool. C'est une stratégie très ancienne qui a été inventée par l'industrie du tabac. Hein. L'industrie du tabac a inventé tout ce qui est aujourd'hui repris par l'industrie alcoolière, c'est-à-dire instiller le doute sur les données de la science, sur les risques, produire des études complaisantes, voire de fausses études, justement pour contrer l'information scientifique objective de santé publique.
Les études sur les bienfaits de la consommation d'alcool modérée ne manquent pas. Les plus grandes entreprises investissent des sommes colossales pour financer des travaux de recherche, que ce soit le secteur des spiritueux ou de la bière. Une étude plébiscitée par la Fédération des Brasseurs Belges retient particulièrement mon attention. Elle affirme qu'une consommation modérée de bière peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. En y regardant de plus près, je m'aperçois qu'elle est entièrement subsidiée par les plus grands brasseurs au monde. AB InBev, Carlsberg, Heineken. Quel crédit y apporter ? J'ai rendez-vous au Centre universitaire de recherche en santé de Picardie. Plus précisément, chez le professeur Michael Naasila, réputé mondialement pour son travail sur les effets de l'alcool.
Tout est biaisé. Les alcooliers, bien évidemment, ils rêvent. Ils rêvent de modération, que tout le monde consomme. Mais la réalité, c'est que même à ces niveaux de consommation-là, on a des risques de développer certaines pathologies. Donc c'est pas un discours généralisable qu'on peut tenir à la population. C'est un biais de mettre en avant certaines études et d'oublier carrément tout un pan d'études scientifiques qui disent qu'à sur certaines autres pathologies, par exemple, il n'y a pas photo. Dès les plus faibles niveaux de consommation, vous avez un risque augmenté.
Ça veut dire que quand l'industrie de l'alcool dit « buvez avec modération », elle ne veut pas que la population boive avec modération ?
C'est hypocrite. C'est très hypocrite. C'est du marketing. L'industrie de l'alcool a peur du message « toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé ». Et puis, tout le monde respectait les repères, eh bien, ça ferait chuter le business de 40%. Et ça fait peur. Donc, tout ce qui peut porter atteinte à la consommation d'alcool les gêne.
Ces études parfois orientées ou biaisées sont une infime partie des stratégies mises en place par l'industrie de l'alcool pour nous faire boire plus. La consommation mondiale au sein de la population a fortement diminué ces dernières années. Alors, le secteur réagit. Publicité, lobbying, marketing agressif. Pour changer l'inéluctable, et normaliser la consommation, tous les coups presque sont permis. Cette enquête, qui aura duré 6 mois, aura changé mon regard sur l'alcool. Il n'est pas question de le bannir, de me priver de boire une bonne bière avec les copains. Non. Simplement de me rendre compte de ce que je fais lorsque je consomme un verre d'alcool. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un produit comme un autre, notamment pour ma santé. Mais je me suis aussi rendu compte que les alcooliers feront tout pour me prouver le contraire.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Pierre Morage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur et professeur de psychologie à l'UC Louvain, chercheur qualifié au FNRS. Martin Deduve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alcoologue, expert en santé publique et directeur de l'ASBL Univers Santé. Martin Deduve, quand vous entendez ces méthodes de l'industrie de l'alcool, AB InBev par exemple, qui offre des vacances aux étudiants des cercles universitaires, Pernod Ricard qui récompense ses meilleurs vendeurs. Quand vous entendez ces méthodes, est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous trouvez ça normal?
Alors, étonné, non, parce qu'on les observe maintenant depuis plus de 20 ans. Enfin, en tout cas, moi, je les observe depuis plus de 20 ans sur le terrain. Est-ce que je trouve ça normal? Évidemment que non. L'alcool, c'est évidemment notre drogue culturelle. Hein. On la trouve partout, tout le temps, à toutes les heures du jour et de la nuit, et fait partie vraiment de nos habitudes festives, conviviales, etc. Néanmoins, ce n'est pas un produit anodin. C'est, je le rappelle, le seul psychotrope, pour lequel on peut encore faire de la publicité, qu'on peut promouvoir. Ça vous nous semblerait aberrant de pouvoir faire de la publicité pour du Valium ou pour du tabac aujourd'hui. Eh bien, pour l'alcool, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et sur le terrain, ça se traduit en fait par toute une série de mesures ou de non-mesures qui finalement poussent globalement toute la population vers la surconsommation d'alcool.
Pierre Morage, quand vous entendez ces réflexions, à quel point c'est normal dans l'esprit des gens de boire de l'alcool ?
Mais je pense que c'est normal pour tout le monde, et c'est bien ça le problème, ou c'est en tout cas un questionnement. C'est-à-dire, pour la plupart des gens dans la population, il y a une consommation qui n'est pas quotidienne, mais qui est fréquente, et surtout, peut-être, qui est faite dans un contexte qui est positif. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on boit de l'alcool pour la plupart des gens? Quand c'est l'été, quand on a un barbecue, quand on est entre amis, quand on a une fête de famille. Ça, c'est ancré dès le plus jeune âge dans la tête des enfants, avant même qu'ils consomment. Donc, est-ce que consommer de l'alcool est normal pour la majorité de la population? La réponse est clairement oui, en particulier dans les pays occidentaux et en Belgique, donc il n'y a pas cette question. Est-ce qu'on devrait se poser la question de cette normalité? Alors ça, certainement, parce que peut-être que l'alcool n'est pas une substance comme une autre. Voilà, on parlait des méthodes des alcooliers. Dans n'importe quel autre domaine commercial, on dirait c'est OK ou c'est acceptable. Pour l'alcool, c'est aussi acceptable. Est-ce que vraiment c'est logique qu'on se dise que l'alcool, c'est un produit comme un autre? Comme l'a dit Martin Deduve à l'instant, non, l'alcool est une drogue, qu'on le veuille ou non, et elle pose problème certainement dans la population générale, mais en particulier chez les personnes qui deviennent dépendantes à l'alcool, et c'est 10% de la population, un adulte sur 10.
Tristan Godard, vous êtes journaliste à Investigation, vous êtes aussi toujours avec nous en studio. Comment cette enquête a été perçue après sa diffusion en télévision ?
Généralement, lorsqu'on diffuse une enquête de ce genre, par exemple sur des produits de consommation de la vie quotidienne, qu'on y apporte des révélations sur les méthodes des grands industriels, la réaction, c'est souvent de l'indignation, parfois un peu de colère. Alors, ces réactions-là, on les a eues, on les a vues, mais on a aussi remarqué, notamment sur les réseaux sociaux, un nombre important de personnes un peu fâchées, en fait. Des personnes qui disent, on ne peut plus rien faire, laissez-nous boire tranquille notre petit verre. Et donc, on s'est aperçu que le sujet était assez clivant, et c'est quelque chose que, à titre personnel, je n'avais pas vu venir. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il est parfois difficile de faire bouger les lignes. Donc, si une grande partie de la population n'a pas envie de changer les choses, on se dit que peut-être le politique ne va pas embrayer et donc ne prendra pas les décisions nécessaires pour faire diminuer la consommation ou la surconsommation.
Martin Deduve, je le rappelle, vous êtes expert en santé publique, vous êtes alcoologue. Ça nous amène à ce plan interfédéral pour lutter contre la surconsommation d'alcool, ce qu'on appelle le plan alcool. Hasard du calendrier, il a été finalisé peu de temps après la diffusion de notre enquête en janvier 2023. Ça faisait longtemps qu'il était sur la table et que des personnes comme vous, actives dans la santé publique, l'attendait. C'était quoi les ambitions de ce plan au départ ?
Alors, au départ, les ambitions étaient assez importantes, en tout cas les ambitions déclarées. On a d'ailleurs été nombreux, en tout cas quelques experts, à être consultés, dont Pierre Morage et moi-même, mais d'autres également, y compris certains qui sont intervenus dans le reportage. Nous pensions d'ailleurs que c'était enfin une vraie occasion de mettre une série de mesures en place en Belgique pour lutter contre la surconsommation d'alcool. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Tristan Godard vient de dire, effectivement, on parle bien de lutter contre la surconsommation. C'est pas le produit, hein, on ne se bat pas contre le produit. Et je pense qu'il faut le rappeler parce que effectivement, ces réactions de la population en disant mais laissez-nous faire, finalement, foutez-nous un peu la paix avec toutes ces mesures. L'idée n'est pas d'éradiquer le produit de la société, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, par son inaction, est complice de la surpromotion du produit et donc de la surconsommation du produit. Et donc c'est ça que nous combattons, c'est cette idée que, en fait, il y a une responsabilité non seulement individuelle, hein, on renvoie d'ailleurs souvent, et même les alcooliers en profitent pour dire, attendez, la surconsommation d'alcool, c'est d'abord une problématique individuelle, donc les gens n'ont qu'à faire les efforts qu'il faut pour ne pas surconsommer. Mais évidemment, à partir du moment où tout est fait dans notre société pour finalement valoriser, survaloriser, surpromouvoir le produit, eh bien, nous sommes tous, toutes et tous, influencés par ces pratiques qui nous poussent globalement à surconsommer de l'alcool. Et c'est bien ça pour lequel on se bat. Hein. C'est bien là-dessus qu'on se bat. Et aujourd'hui, je le redis, l'État est complice de, finalement, de cette surpromotion du produit, de cette survalorisation, et qui fait qu'on a une vraie problématique de santé publique. Vous l'avez dit en introduction du sujet, l'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité évitable juste derrière le tabac, c'est la troisième cause de mortalité confondue, et c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Alors, à un moment donné, il faut quand même énoncer les faits. Évidemment que boire un verre en société, etc., c'est agréable et cela m'arrive aussi, évidemment. C'est un produit qui fait vraiment partie de notre culture et qui peut être très agréable à consommer. Néanmoins, aujourd'hui, le Belge boit à peu près deux fois trop par rapport aux recommandations en termes de santé. Alors ça, c'est la moyenne, deux fois trop. Et puis certains ne boivent moins que les recommandations, très bien, et puis d'autres boivent beaucoup plus. Et donc, on se retrouve finalement avec 14% de la population qui a une consommation problématique, presque la moitié d'entre eux qui développent des signes importants de dépendance. Donc, que fait-on avec ça? Et il y a aussi un sous-diagnostic très important, c'est-à-dire qu'il n'y a que 15% des personnes qui ont un problème d'alcool qui sont diagnostiquées, tout simplement dû aussi à ces représentations sociales que nous avons de la consommation d'alcool. C'est-à-dire que, évidemment, boire de l'alcool, c'est chouette, c'est bien, c'est convivial, c'est positif. Par contre, avoir un problème avec l'alcool, eh bien, on a vraiment du mal à se le dire, tout simplement parce qu'aux yeux de la société, ce n'est pas audible non plus. Donc on est dans ce rapport un peu compliqué, paradoxal.
C'est là que le plan alcool devait intervenir pour justement réguler et changer les choses.
Et le plan alcool, effectivement, devait enfin mettre quelque part l'État face à ses responsabilités, hein, parce qu'il y a, on l'a dit, la responsabilité individuelle, mais il y a aussi et surtout une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le répète, par son inaction, l'État est complice de cette survalorisation du produit en ne mettant pas en place, par exemple, des mesures claires en matière de publicité, de l'eau gratuite dans les bars, dans les restaurants, l'indication des unités d'alcool sur les contenants, par exemple. Enfin, il y en a une quinzaine qu'on pourrait encore citer comme ça, qui n'ont finalement pas été adoptées et parfois pour des raisons totalement inexplicables, si ce n'est l'influence des lobbies.
On va y revenir. Pierre Morage, vous avez été dans ces experts consultés par le politique pour justement mettre en place ce plan alcool. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, pour ce qui me concerne, on a été convoqué pour une unique session. On a déballé l'ensemble des propositions. On a essayé de le faire de manière... moi, je ne suis pas lobbyiste, je suis chercheur, donc on a essayé de le faire sur des bases scientifiques. Donc, quel est l'état de la littérature actuelle sur la consommation d'alcool et sur les manières de la réduire? Et c'est assez simple, à vrai dire. Enfin, c'est très très clair. L'OMS, qui peut pas être soupçonné d'être...
L'Organisation mondiale de la santé.
Exactement, ou... oui, pardon. L'Organisation mondiale de la santé dit trois choses. Il faut augmenter les prix, il faut réduire la publicité, il faut réduire la disponibilité. Pas d'alcool partout tout le temps, pas de publicité et un prix de l'alcool qui le différencie à tout le moins des boissons non alcoolisées. Facile, c'est quelque chose qui finalement coûte très peu à la société et on sait que ça marche, donc c'est des évidences scientifiques. Donc on a expliqué ça aux représentants politiques et puis on est parti. Et moi j'ai plus jamais entendu parler de ça jusqu'à la sortie du plan alcool. Donc moi, que je ne sois pas consulté, on s'en fiche un peu, mais le fait c'est qu'entre deux, il est évident qu'il y a eu après avoir consulté des experts, des modifications du plan massives pour arriver arriver à un plan qui est ridicule, je pense qu'on peut le dire assez clairement, parce qu'il y a eu un passage par les politiques, et ça, voilà, c'est un arbitrage, mais aussi, et probablement surtout, c'est embêtant de taper toujours sur le même clou, mais par les lobbies, c'est-à-dire par les alcooliers. Donc on consulte dans le plan alcool, d'abord les experts scientifiques, et puis les alcooliers, donc les alcooliers, les producteurs d'alcool, donnent leur avis sur ce que les experts pensent. Le résultat, ben, on peut s'y attendre, c'est que les alcooliers ne vont pas dire « Ah ben oui, c'est très bien de limiter la consommation d'alcool ». Il faut quand même savoir, encore juste pour un dernier chiffre, que 50% de l'alcool consommé est consommé par 10% de la population. Donc si les alcooliers, et ces 10%, c'est des personnes dépendantes à l'alcool, qui ont une maladie mentale, une maladie psychiatrique, donc qui ne contrôlent plus leur consommation. Donc ça veut dire que si on enlève ces 10% de personnes dépendantes à l'alcool, les alcooliers, les producteurs d'alcool, perdent la moitié de leur vente. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour se dire... Il y a un problème global de surconsommation, mais pour les alcooliers, l'idée est de garder des consommateurs qui sont largement excessifs parce que ceux-là rapportent, encore consomment 50% de l'alcool.
C'est extrêmement problématique, Saint-Martin de Duve. Du coup, qu'est-ce qui est ressorti alors de ce plan alcool ?
Rien. Rien ou presque rien. Non, des mesurettes. Alors bon, on peut voir le verre à moitié plein, pour faire une mauvaise métaphore, et se dire, bon, enfin, il y a un plan alcool sur la table et il pourra servir de base pour de nouvelles négociations plus tard. Je pense que c'est le choix que certains partis qui étaient prêts à claquer la porte ont finalement posé autour de ce plan alcool. Néanmoins, nous, d'un point de vue de santé publique, honnêtement, il ne reste quasi plus rien comme mesure intéressante dans ce plan. Même des mesures extrêmement peu coûteuses et peu engageantes, même pour les alcooliers, comme par exemple l'indication des unités d'alcool, parce qu'on dit toujours à la population il ne faut pas dépasser 10 verres par semaine, 10 unités standards d'alcool par semaine à répartir sur plusieurs jours, etc. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une unité d'alcool, et d'ailleurs bon nombre d'entre nous ne savent pas ce qu'est réellement une unité d'alcool, eh bien autant les indiquer directement sur les bouteilles, sur les contenants.
Vous pouvez nous expliquer du coup ce que sont ces unités d'alcool ?
C'est assez simple, c'est 10 grammes d'éthanol. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans, par exemple, 25 centilitres de bière à 5 degrés, dans 10 centilitres de vin à 12 degrés ou dans 3 centilitres d'alcool fort à 40 degrés. Donc c'est une règle de 3, entre le volume, le degré d'alcool, on multiplie ça par la densité de l'alcool, 0,8, et on a le nombre d'unités d'alcool. Donc en fait, on a déjà le volume et le degré d'alcool sur les bouteilles. On propose simplement de rajouter une troisième info, qui prend quand même très très peu de place sur un contenant, qui indiquerait le nombre d'unités. Moi, je peux vous dire qu'au quotidien, ça aiderait tous mes patients qui sont dans ce calcul d'unités en permanence, parce qu'ils essayent de retrouver la capacité à gérer leur consommation et que ça passe notamment par le calcul des unités. Donc ça faciliterait le travail de beaucoup de soignants et surtout de beaucoup de consommateurs.
Ça a été refusé, ça n'est
pas dans le plan. Même une mesure aussi simple comme celle-là, effectivement, a été refusée alors qu'elle ne coûte rien à personne. Et honnêtement, ce n'est pas non plus la mesure qui va fondamentalement changer la vente d'alcool. Pourtant, elle va aider bon nombre de consommateurs problématiques.
Pourquoi ça a bloqué ? Pourquoi ça a été si compliqué ?
Visiblement, autour de la table, il y a eu une volonté politique claire de saboter toute initiative, un tant soit peu ambitieuse, autour du plan. Et clairement, dans ce qui nous a été revenu, parce qu'on a été sollicité à plusieurs reprises, consulté même, parfois même au moment des négociations, parfois certains cabinets revenaient vers nous en disant « Tiens, voilà, on a telle ou telle proposition qui tombe à l'eau, d'autres qu'on a envie de pousser, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc on était quand même consulté d'une manière ou d'une autre. On n'a évidemment pas fait partie des négociations, mais on a été sollicité. Et ce qui nous est revenu de plusieurs témoignages différents, c'est qu'en fait, il y a visiblement une famille politique autour de la table qui a systématiquement tout bloqué. C'est la famille libérale. Donc moi, je propose qu'on leur pose la question. Pourquoi sont-ils aussi réfractaires à la mise en place de mesures un tant soit peu portées vers la santé publique des gens, vers la santé de tous, plutôt que l'intérêt particulier de quelques actionnaires de ces grands groupes alcooliers ?
Est-ce qu'il y a des pays qui ont relevé le défi, qui ont choisi des politiques ambitieuses et qui ont des résultats positifs, concluants, Pierre Moral ?
On a pas mal d'exemples. On a, pour la publicité, un exemple simple, c'est la loi EVA en France. On ne peut pas dire que la France soit un pays particulièrement réfractaire à l'idée de boire de l'alcool ou de produire de l'alcool. La loi EVA, alors elle a ses limites, mais c'est une loi qui reste provoque des restrictions massives sur la publicité pour l'alcool. Encore une fois, avec des limites. On a d'autres exemples. On a l'exemple, l'Islande a fait un plan en général sur la surconsommation chez les jeunes, par exemple, avec des politiques vraiment... Et là, qui avec des moyens financiers massifs. Un dernier exemple, peut-être, c'est les pays qui mettent un prix minimum sur la dose d'alcool. Donc, comme l'Écosse, le Canada a essayé également ça. C'est-à-dire, on dit, une dose d'alcool, comme Martin Delu vient de l'expliquer, on ne peut pas avoir une dose d'alcool à moins de X euros ou livres sterling, en l'occurrence. Et donc, là, ça permet d'avoir un effet direct sur la vente d'alcool, parce qu'on sait scientifiquement que plus il y a une loi mécanique entre la hausse des prix et la baisse de la consommation. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas ici de dire on va prohiber l'alcool ou on va le mettre à des prix qui sont inatteignables, mais se dire consommer de l'alcool, c'est pas neutre, et quand je consomme de l'alcool, c'est normal que ça me coûte plus cher que quand je consomme un soft, ça me semble pas complètement aberrant. Et le plan alcool, quand on voit ce qui en est sorti, je veux dire, ici, l'idée n'est pas de passer pour des ayatollahs, moi je suis pas du tout pour la prohibition, et je consomme de l'alcool aussi, simplement se dire du bon sens basique, c'est-à-dire, par exemple, quand je suis sur une autoroute, c'est normal que je ne puisse pas avoir d'alcool. Là, c'est
dans les pompes à essence, dans station-service.
Voilà, dans ma boulangerie le dimanche matin, je veux dire. Ça,
dans
c'est
les hôpitaux.
Dans les hôpitaux, voilà, très bien. L'idée là, pour avoir le plan alcool, dit qu'il n'y a pas de vente sur l'autoroute entre 22h et 9h du matin. Ben, on aurait pu, je pense, être un petit peu plus ambitieux que ça. Pour la publicité, aucune régulation. Je veux dire que vraiment, l'idée n'est pas ici de dire qu'il faut stopper la consommation d'alcool et aucune consommation d'alcool n'est acceptable, c'est de dire on est en 2023, l'alcool ça coûte à la société, même d'un point de vue très cynique, hein, même si on met toutes les souffrances des patients et des familles de côté, ça coûte à la société en soins de santé, donc ça rapporterait de l'argent à la société de mettre ces règles dont on sait qu'elles fonctionnent et qui sont simples et non coûteuses. Mais moi j'ai pas l'explication, très sincèrement.
Revenons sur la publicité, et notamment du coup sur les jeunes. Alors on sait que les alcooliers disent ne pas viser les jeunes avec leur publicité, mais malgré tout, ils sont quand même impactés. Tristan Godard, vous avez voulu dans l'enquête réaliser une petite expérience avec une classe de jeunes enfants d'une dizaine d'années et déjà détecter cette influence de la publicité pour l'alcool dans ces très jeunes esprits.
Oui, c'était une sorte de petit test hein, basé sur la littérature scientifique, préparé avec Pierre Morage, afin, vous l'avez dit, de tester l'impact de la pub sur les mineurs, avec des campagnes de pub qui ne leur étaient pas destinées à la base. On retrouvait toute une série d'univers visuels, des logos de produits en tout genre, pour des banques, des produits d'entretien, mais aussi donc de l'alcool évidemment. Et on a été assez surpris en fait hein, des résultats et de l'image très positive de ces pubs qu'elles peuvent avoir sur les jeunes, pourtant parfois très très jeunes, bien avant l'âge légal pour boire.
Pierre Morage, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats de ce test ?
On était assez, alors, à la fois contents que ça ait fonctionné si bien et à la fois c'était assez dramatique parce que l'idée, ce reportage montre qu'à partir de 10-12 ans, ils sont tout à fait capables, donc ils n'ont jamais consommé d'alcool et ils ne sont pas la cible de la publicité selon les alcooliers, mais ils sont tout à fait capables d'identifier le logo, de le lier à l'alcool et surtout, pour eux, ces logos et ces marques d'alcool sont liés à des valeurs positives. À la fois, c'est pas du tout étonnant. Si vous voyez 10 fois, vous êtes fan de foot, vous voyez 15 fois la tête de Kevin De Bruyne que vous adorez avec le logo Jupiler juste à côté, l'association elle se fait, c'est la psychologie de base. Donc d'évidence, ces alcooliers qui prétendent que la publicité ne touche pas les populations jeunes puisqu'ils ne sont pas consommateurs, bah, c'est factuellement erroné et c'est pas juste ce reportage qui le montre, même s'il le montre très bien. On a aussi là des larges études, désolé de toujours ramener aux données scientifiques, mais on a des larges études qui montrent que plus on est confronté de manière précoce et intense au marketing et à la publicité pour l'alcool, plus on va consommer de manière précoce et intense. Et ça c'est évident.
Ce combat contre la surconsommation d'alcool, on l'a bien compris, la surconsommation, pas le produit en tant que tel, il est un peu similaire finalement à celui mené contre le tabac il y a 20 ou 30 ans. Est-ce qu'on est dans la même dynamique ?
Ben, on est dans la même idée. Maintenant, on n'y arrive pas du tout pour l'alcool. Voilà, je pense que pour le tabac, maintenant, évidemment, il y a encore des gens qui fument et évidemment, il y a encore des problèmes liés au tabac. Mais le tabac est évalué négativement. Et je pense que c'est vraiment ça le point central, à mon sens, pour les changements de comportement, est évalué négativement par une majorité de la population et parfois par les fumeurs eux-mêmes. C'est un combat qu'on n'a pas du tout réussi actuellement pour l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est évalué positivement, encore une fois, en lien avec la fête, etc., par la majorité de la population. Et je pense que le fond du problème est là. La solution, à mon sens, mais c'est juste un avis personnel, ne viendra pas des alcooliers. On n'a rien à attendre des alcooliers, à mon sens, de manière massive. Ils produisent de l'alcool, ils le vendent, c'est exactement leur boulot et je n'ai pas à leur reprocher ça. Viendra pas des politiques, parce que les politiques, dans mon esprit, c'est une représentation de la vie majoritaire. Si la majorité de la population était contre avaient une vision négative de l'alcool, ou en tout cas de la surconsommation d'alcool, et pensaient qu'il faut vraiment faire quelque chose pour changer cette surconsommation, les politiques suivraient le mouvement. Et le plan alcool aurait eu un output beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a eu ici. Donc je pense que le fond du problème, c'est cette survalorisation de l'alcool dans notre société, et cette sous-estimation des problèmes qu'il peut provoquer chez une bonne partie de la population.
Martin de Duve, votre avis là-dessus, on peut obtenir avec l'alcool les mêmes éléments qu'on a obtenus avec le tabac, plus de publicité, des prix plus hauts. Est-ce qu'on peut arriver à ça un jour ?
Alors, c'est difficile de répondre à cela. Moi, je dis parfois qu'il a fallu 25 ans pour interdire la publicité pour le tabac. Probablement qu'il en faudra au moins 50 pour l'alcool, parce qu'effectivement, il y a toutes ces représentations sociales que Pierre vient d'évoquer. Donc, il y a un vrai travail à faire. Mais alors, ces émissions-ci peuvent contribuer aussi à globalement faire évoluer les mentalités. Je le rappelle, ce n'est pas le produit qui pose problème, c'est tout ce qui pousse à la surconsommation. Et là, il faut agir. C'est une vraie urgence de santé publique.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast et merci à vous de nous écouter.